Bienvenue au balado-diffusion de Source de vie. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialccsdv.com info@commercialccsdv.com
Cette semaine, en fait, on termine cette série de messages qui s'intitule « Prière audacieuse » qui a certainement chamboulé ou bouleversé plusieurs cœurs, plusieurs personnes, plusieurs situations. Je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires de retour, autant pour « Sonde-moi » que « Brise-moi », qui n'était pas un message facile à apporter. Et aujourd'hui, mais en fait, dans quelques instants, on va aller plus loin dans le prochain message, mais je sais que ces messages-là ont un impact déterminant. Puis souvent, c'est un contenu qui, malgré le fait qu'on ait juste, un message, des fois, il reste juste des petits morceaux sur lesquels on garde. Il y a des choses qui restent et ce sont des phrases ou un verset ou juste une pensée qui nous garde. Et c'est pas nécessairement tout le message. Et souvent, ces choses-là qui nous percutent continuent de le faire à répétition, autant dans la semaine, la nuit même pour certaines personnes. Et on a regardé ces trois prières-là qui sont, évidemment, comme j'avais dit, pas des prières sécuritaires, pas des prières banales, mais audacieuses. Et j'avais même mentionné, je vous dis encore, à la rigueur des prières dangereuses, dans le bon sens du terme, et des prières audacieuses. Et à mon avis, la plupart des gens que je connais prient des prières beaucoup trop sécuritaires. Du genre, pourquoi est-ce qu'on prie? Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu arrange cette situation-ci ou là. Tu sais, Seigneur, aide-moi dans telle situation, apporte tel réconfort, aide telle famille. On prie des prières souvent très sécuritaires, pour que Dieu nous protège. Et c'est correct, c'est super. Mais il y a des prières qui vont plus loin que ça. Et dans le premier message, on avait vu ensemble « Sonde-moi », où on avait vu le psaume de David, le psaume 139, où David va dire « Sonde-moi aux yeux, puis regarde, vérifie ». En fait, il a pas été sur la défensive de se dire « Non, pas moi », mais plutôt de dire oh, « Regarde donc voir qu'est-ce qui se passe au sein de mon cœur. Je te donne la permission de regarder jusqu'au fond. » Et de creuser, de regarder ce qui va pas. Et quand il demande ça à Dieu, sonde mon cœur et vois donc si je suis correct, si je suis à la bonne voie, si je fais la bonne chose, si j'ai les bonnes pensées, est-ce que j'ai les bonnes décisions, est-ce que j'ai les bonnes réflexions, est-ce que mon cœur est pur devant toi, est-ce que je suis dans la bonne direction, je fais-tu la bonne chose ou pas? Et quand David prie ça, il a aucune idée de la réponse qu'il va avoir. En fait, il s'attend pas à voir tout ce que Dieu va lui dire. Et c'est la même chose lorsqu'on demande à Dieu « Sonde-moi ». Vous ne pouvez pas jamais vous attendre à ce que Dieu peut vraiment faire ressortir. Et ce qui amène au deuxième message qu'on a regardé ensemble, qui était « Brise-moi ». Et comme j'avais mentionné, puis je le dis encore aujourd'hui, très sincèrement, c'est souvent la dernière prière qu'on veut prier. C'est souvent la dernière prière qu'on aurait le goût de prier. De dire « Brise-moi », pas vraiment le goût, non. Pas. As-tu une autre question? As-tu d'autres choses? On veut pas vraiment prier ça, mais ce qu'on réalise pas, c'est que de l'autre côté du brisement, il y a une intimité phénoménale avec Dieu. Il y a quelque chose qui est renversant, qui s'acquiert pas d'aucune façon que de passer par là. Mais aujourd'hui, c'est le dernier message, le troisième, qui est « Envoie-moi ». « Envoie-moi, Seigneur ». Pour certaines personnes aujourd'hui, ça va être peut-être un changement de direction dans leur vie. En d'autres mots, c'est de dire à Dieu « Dieu, je te laisse faire, je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec moi, voici un chèque en blanc de ma vie. Je le signe et tu mets ce que tu veux dessus. Je fais ce que tu demandes, je vais où tu veux que j'aille, je ferai ta volonté, non la mienne. » Tout souvent dans nos prières, on veut que Dieu fasse quelque chose pour nous. Quand on prie, on demande à Dieu de faire quelque chose pour nous. La plupart du temps, ce qu'on veut que Dieu intervienne dans nos situations, on veut que Dieu fasse quelque chose pour nous. Mais pas souvent prions-nous pour que nous fassions quelque chose pour Dieu. De dire, Seigneur, je vais faire ça pour toi. Et ça, c'est très difficile parce que ça demande d'arrêter de regarder à soi-même. Ça demande d'arrêter de regarder à nos intérêts, à notre façon, à nous, nos commentaires, nos opinions, nos points de vue, nos désirs, nos plans. Ça demande d'arrêter de regarder là et de regarder à Dieu et dire, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Et aujourd'hui, c'est une espèce de, en fait, je l'appellerais une prière de disponibilité. Une prière de disponibilité. Quand tu pries ce genre de prière-là, Dieu peut t'emmener n'importe où. où il veut, quand il veut. C'est sûr que Dieu peut te montrer un appel pour ta vie, ou des fois dépoussiérer un appel dans ta vie. Quelque chose qui a déjà été là, qui est caché dans le grenier avec la poussière de tout ce que tu as mis de côté pour X raisons, mais que tu as mis de côté et que tu as laissé aller, mais que Dieu a jamais changé d'idée. Dieu avait toujours ce plan-là pour toi. Mais en quelque part, la vie fait son chemin. C'est ça qui arrive des fois. On est pris dans une circonstance, des routines, toutes sortes de... Le cours, moi j'appelle ça la vie. C'est la vie, c'est ça la vie. Et à un moment donné, on se réveille et on fait comme, où est passé mes plans? Où sont passés cette vision-là que Dieu m'avait donnée? Où s'est passé l'appel? C'est caché en quelque part en dessous d'un tas de poussière. Et à un moment donné, dans ce genre de situation-là, Dieu dépoussière ça. Et il peut te montrer tellement de choses. Tu peux pas passer d'une... Quand Dieu fait ce genre de démonstration, tu sais, on dit, Seigneur, envoie-moi, et que Dieu montre quelque chose. Dieu peut montrer un appel pour dans un autre endroit, géographiquement, je parle. Dieu peut te montrer tellement de choses. Dieu peut même faire quelque chose d'assez malade, au point où tu peux passer d'une personne qui aime les chats à une personne qui aime les chiens. Ce qui est une bonne chose. Quand tu lis la Bible, quand on regarde dans la Bible, on voit d'un bout à l'autre que Dieu appelle des gens. D'un bout à l'autre, on voit que Dieu met un appel sur la vie des gens. Et c'est commun, c'est pas de l'élite, c'est tout le monde. Dieu les appelle à des choses. Et on voit ça d'un bout à l'autre de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un appel? Ça veut pas dire que ton sel va sonner. Non, il sonnera pas. Mais ça veut dire que Dieu parle aux gens. Il pousse à avancer, il inspire, il emmène dans une direction, il dirige, il peut te pousser à encourager quelqu'un à aller quelque part, à servir, à agir. Il y a plein de réponses différentes à ça. Et je veux parler des réponses qu'on peut faire aux appels de Dieu. Je veux parler de la réponse, notre réponse à nous, quand Dieu appelle. Il y a trois réponses. Trois réponses à l'appel de Dieu ce matin qu'on va regarder. Trois réponses à l'appel de Dieu. La première réponse qu'on peut avoir, c'est celle-ci, c'est celle de Jonas. Celle de Jonas qui dit, « Me voici, je n'y vais pas. » Certaines personnes peuvent vraiment s'identifier à ça. Jonas, premier chapitre, versets 1 et 2, dit ceci. « Debout! » Pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Je m'imagine combien ont eu une expérience similaire dans leur vie. Senti poussé à faire quelque chose, sachant que c'est la direction, mais pour toutes sortes de raisons, ont pas voulu le faire. Et moi, j'ai été ça. J'ai été Jonas. En fait, ça aurait été Jean-Marie 1, versets 2 et 3. C'est vrai. C'est ma vie, ça. Ça fait partie de mon histoire. Lorsque j'étais à l'Institut biblique à l'époque et que Dieu me dit, voici où ce que je veux que tu ailles, voici ce que je veux que tu fasses. Sérieusement, j'ai quitté l'école biblique et je suis parti. Je ne voulais pas faire ce que Dieu me demandait. En fait, j'ai fait exactement comme Jonas. Je suis parti dans la direction opposée. En fait, j'ai pas tombé dans le péché. Je suis plongé dedans. Moi, j'ai sauté dedans à pieds joints. Je ne voulais rien savoir de suivre ce que Dieu me demandait. Ça ne m'intéressait pas. En fait, je me disais tout sauf ça et encore moins devenir pasteur. Vous voyez qui a gagné. J'ai toujours dit, avec Dieu, c'est pas si, c'est quand. C'est pas si tu vas y aller, c'est quand. C'est pas si il va se passer ça, c'est quand. Le quand est beaucoup plus important que le si. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas si, c'est quand. Et je savais ce que je devais faire. Et la réalité, c'est que je ne voulais pas le faire. Je voulais pas faire ces choses. J'ai fait comme Jonas. Me voici aujourd'hui, Seigneur, je n'y vais pas. Je ne vais pas là. Je ne veux pas faire ça. Je refuse de faire ce que tu as placé comme appel sur ma vie. Je ne veux pas faire ça. Et ça, c'était catégorique. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait pour pas y aller. Je vous le garantis. J'en ai fait des choses pour pas me rendre là, pour me disqualifier, pour me dire « je suis pas le bon gars, je suis pas la bonne personne ». Non, je n'y vais pas. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je refusais de le faire. Ça, c'est la première réponse qu'on peut avoir. La deuxième réponse, c'est l'étape que j'ai passée par la suite. C'est Moïse. « Me voici, envoie quelqu'un d'autre ». Me voici, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Exode, au troisième chapitre, verset 10 et 11, dit, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. C'est Dieu qui parle à Moïse. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit, moi, je peux pas y aller. Trouver le Pharaon et faire sortir l'Israélite d'Égypte. Et il va dire, envoie donc, laisse faire, moi, je peux pas y aller. Trouve une autre personne meilleure que moi. Envoie un autre, c'est pas mon appel, c'est pas mon plan. Je vois pas ça pour ma vie, je me tente pas de faire ça. Je veux faire d'autres choses, envoie quelqu'un d'autre. Il y a plein d'autres mondes qui sont bons. Moi, j'ai pas assez de talent. J'ai pas assez bon pour parler au monde. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas la formation. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de... Mettez ce que vous voulez en ligne. Je n'ai pas assez de talent. Je suis pas assez bon. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de formation. J'ai pas assez... Dieu n'appelle pas des gens formés. Dieu forme des gens appelés. Il t'appelle et il te forme. Mais souvent, il commence par te déformer. Pour enlever ce que toi, qui va pas. Pour enlever ce que, qui est de toi, qui est trop. Il enlève ça. Ça fait partie du brise-moi, ça. D'enlever ce qu'il y a de moi. Et Moïse est dans cette situation-là où il dit à Dieu, moi je vais pas là. Envoie quelqu'un d'autre. En fait, Moïse ne questionne pas l'appel. Il ne questionne pas le besoin de qu'est-ce qu'il faut que soit fait. Moïse, il est en total accord avec Dieu. Il dit, ben oui, il faut sortir les Israélites de là. Mais moi, je, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Peut-être que plusieurs s'identifient. Seigneur, oh oui, j'ai ça à cœur, mais prends une autre personne parce que moi, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis au bout, j'ai pas la formation, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Prends quelqu'un d'autre. Trouve une autre personne, Seigneur. Quelqu'un d'autre va le faire. Mais la réalité, c'est que c'est à toi qui l'a demandé. Et là, on se dit, oh, mais lui ou elle a plus de temps que moi pour faire ceci, ou elle devrait le faire, ou lui devrait le faire. Peut-être que c'est ta prière, comme Moïse. Ah, Seigneur, oui, je suis là, mais envoie quelqu'un d'autre. Je te prie, Seigneur, d'envoyer une personne. Je te prie pour que ça arrive. Exode au quatrième chapitre, verset 13, il va dire à Dieu, je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Envoie une autre personne que moi. Et ce n'est pas une question de discuter ce que c'est important l'appel que Dieu place. Est-ce que c'est quelque chose de majeur? Est-ce qu'il faut que ce soit? Oui, mais Seigneur, pas moi. Tout, mais pas moi. Et ça, c'est une autre petite coche différente du « moi, j'y vais pas ». Moi, j'y vais pas, c'est « je veux même pas en parler ». L'autre, Moïse, fait « yes, m'a prié pour lui si tu l'envoies. » Envoie la personne, je vais m'a prier pour. Ça arrive souvent. Jonas dit non, j'y vais pas. Moïse dit non, envoie un autre. Puis la troisième réponse, c'est celle d'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Prière audacieuse, et voici la prière de laquelle je parle aujourd'hui. C'est cette prière-là que je vais vous parler. Me voici, envoie-moi. Ésaïe, sixième chapitre, verset 8, ça dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Wow. À la différence d'un gars comme Moïse qui fait comme « envoie quelqu'un d'autre ». En fait, ça ressemble aux personnes comme... Tu sais, la semaine passée, j'ai parlé de Ron Hall du film « Différent comme moi ». En fait, où il va dire « moi, je le fais pas, mais je vais signer un chèque pour que quelqu'un le fasse. Je vais voir est-ce que quelqu'un... Mais moi, je le ferai pas. » Mais Ésaïe va plus loin que ça, lui. En fait, ce qui est super intéressant quand on lit le texte, c'est voici ce qu'il ne dit pas. « Où est-ce que tu m'envoies ?» La température semble à quoi où si tu m'envoies? Le coût de la vie, c'est quoi là-bas? Moi, j'y gagne quoi aller là? Qui va remarquer ce que j'ai fait? Il a rien demandé, rien demandé, absolument rien comme dans rien. Hein? Rien, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans rien? Est-ce qu'il y a quelque chose, plus rien? Il a rien, il a rien demandé, aucune demande, zéro demande. En fait, il est en train de lui dire, voici, je suis là, peu importe, chien en chèque en blanc. Ah ouais, go, j'y vais. Isaïe n'a aucune idée dans quoi il s'embarque. Isaïe, il sait pas. Et j'ai pas besoin de vous dire que c'est une prière assez audacieuse de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Ça se peut qu'il te demande de faire des choses que tu n'as pas le goût de faire. Que ça te tente pas de faire. Oh, c'est pas mon appel. Oh, c'est pas ce que j'ai à cœur. Ouais, puis est-ce que tu es disponible pour Dieu ou pas? C'est la question. Oui, mais s'il y a des conditions, ça marche plus. Il y a pas de conditions. C'est me voici, envoie-moi. C'est audacieux prier ça. C'est très audacieux parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. En fait, pas besoin de vous dire que c'est très audacieux, mais c'est comme si, Seigneur, je te donne mes pensées, mes yeux, mes mains, mes pieds, ma bouche, utilise ma vie, bâtis ton royaume avec. Dirige-moi là où tu veux. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous encourager à prier ça. Seigneur, je te donne la permission d'interrompre ma vie. Où tu veux, je vais aller. Je te laisse interrompre mes plans, mes désirs. Je te laisse interrompre le cours de ma vie, faisant ce que tu veux. Wow! C'est quelque chose. Ce que tu veux que je fasse, Seigneur, je vais le faire. Utilise-moi. Mon temps, mes ressources, comme tu le veux, Seigneur. Je suis là, disponible pour toi. Moi, j'ai quelque chose à vous garantir aujourd'hui. Si tu pries ça, je vous fais la garantie que Dieu va répondre. C'est une promesse. Dieu va répondre. Si tu demandes à Dieu, envoie-moi, Dieu va t'envoyer en quelque part. Mais comment on se rend d'être capable d'arriver à ce point-là dans la vie ou cette attitude d'abandon envers Dieu? Comment sommes-nous capables de vivre? Parce que humainement, on se dit, voyons donc, es-tu malade? Ça a comme pas d'allure. C'est comme, je peux pas sainement d'esprit dire ça. Parce que je m'en vais, je sais pas où, qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis qu'est-ce que ça va donner dans ma vie. Je sais pas ce que ça va aboutir à. C'est ça, en fait, prier, dire, me voici, envoie-moi, prends-moi, puis fais ce que tu veux avec. Ça demande de prendre toute ma volonté, de la mettre dans un pot, puis dire, ça, je m'en sers plus, la tienne. C'est quelque chose. Parce que ça peut impliquer d'être à un endroit où ce que t'as pas nécessairement un grand goût d'être là. Mais Dieu dit, c'est ça que je veux que tu fasses. Oh, mais ça me tente pas. Je sais. T'sais, on y apprend rien en passant, hein. Je dis, vous y apprenez pas que ça vous tente pas. Vous y apprenez pas que c'est pas vraiment dans vos plans ou dans votre carrière. Vous y apprenez pas ça. Il le sait déjà. Il est déjà au courant de ça. C'est pas une surprise. Probablement la surprise vient plus pour toi. Toi, t'es surpris de dire, pourquoi là? Parce que t'as besoin de ça. Ben non, je veux pas ça. Écoute, je vais faire ça puis ça donne pas de résultat. Personne ne va le voir. C'est justement une bonne chose pour toi. Et ça ne tente pas. Mais qui, j'aurai pas de reconnaissance. Qui va me remercier? Qui va s'occuper de moi pour voir est-ce que je sois souligné le travail que je fais? Justement, c'est ce que tu as besoin, d'être dans l'ombre. Souvent, on oublie cette réalité-là. Jésus a dit, si ce que vous cherchez, c'est l'acclamation des hommes ou ce que les hommes vous fassent bravo, là, vous avez eu votre récompense. Ce que vous vouliez, vous l'avez eu. Mendez-en plus, là. Mais que j'arrive au ciel, le Seigneur va me remercier. Non, tu l'as eu, ta récompense. C'est fait. C'est déjà bravo, tu l'as eu. On refera pas un autre standing, là. C'est fait. Mais si tu fais des choses, personne ne les remarque jamais. Personne ne le sait. Savez-vous quoi? Dieu, lui, le sait. C'est jamais dans le beurre. C'est jamais fait pour rien. Ce qu'on peut penser que nos yeux humains, parce qu'on se décourage, parce qu'on regarde les résultats humains, oh, mais je fais ça puis ça donne rien. J'essaye puis je fais plein de ça puis il se passe rien. Tu ne sais pas qu'il se passe rien. Combien de fois j'ai dit, la prière, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle change la personne qui prie. Ça se peut que tu sois dans une situation où que Dieu dit, oui, mais j'ai pas de résultat, mais tu réalises pas à quel point toi, t'es en train de changer. Tu réalises pas à quel point Dieu est en train de faire un travail phénoménal dans ta vie. Mais tu le vois pas parce que t'es focusé sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, sur les résultats apparents aux yeux, ce qu'on peut voir, ce qui tape l'œil, ce qui frappe l'œil. Mais Dieu regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Il regarde ce qui se passe, ce qui est en train de se transformer, ce qui est en train de se changer. Maintenant, on a regardé Isaïe 6-8. Comment on peut arriver à cet abandon-là? Mais on va regarder la... Tu sais, Isaïe 6-8, c'est un point culminant d'un processus. En fait, il se passe des événements avant ça. Et on va regarder comment ça il se rend jusque-là, comment ça l'amène à cette pente. Donc, on va regarder trois choses que tu as besoin pour t'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Trois choses dont tu as besoin pour abandonner entre les mains de Dieu. La première chose que tu as besoin, c'est d'une véritable expérience de la présence de Dieu. Une véritable expérience de la présence de Dieu. Isaïe 6, verset 1 dit, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il est arrivé quoi? Il a vu Dieu, il a senti, il a expérimenté la présence de Dieu. Il a expérimenté qui Dieu est et ça l'a transformé. Ça l'a changé sa vie quand il a rencontré Dieu. C'est-à-dire cette présence-là. Et là, c'est métaphorique dans le sens que il voit quelque chose, il vit une expérience. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est quand Dieu débarque dans ta vie, quand tu ouvres ta vie à Dieu, quand tu l'invites à venir à vivre en toi. Dieu débarque, la présence de Dieu débarque. Dieu vient vivre en toi et Dieu vient avec sa présence. OK. Je vais vous donner trois attributs de Dieu indéniables qui sont... Dieu est omnipuissant, c'est-à-dire tout-puissant. Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Donc, quand on dit, ah, je sais pas si Dieu va être là. Dieu est là. La réalité, c'est pas que la présence de Dieu est plus ou moins là. Ça, c'est un phénomène assez humain, merci de dire, j'ai ressenti la présence de Dieu. C'est-tu la différence? Dieu est pas plus présent. T'as juste été plus conscient de sa présence. T'as juste été plus à l'écoute de sa présence. T'as juste été plus ouvert à recevoir sa présence. Dieu est là que tu sois réceptif ou pas. Il ne change jamais. Dieu ne change pas. Il est tout là. Et là, on a l'impression, je sens pas Dieu là-dedans. Non, Dieu est là. C'est toi qui sens pas. Ça, c'est totalement humain. Tu te bases sur des sentiments, sur des émotions, sur une impression ou sur un feeling. Mais la présence de Dieu ne change jamais. Donc, il dit, hey, ce dimanche-là, il y avait plus de présence de Dieu. Dis-toi une chose, c'est que tu étais plus réceptif à la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est toujours là. Dieu, il n'y a pas de gradateur. Hein? Oui, c'est on. Il n'y a pas de off. C'est toujours allumé. Dieu est toujours comme ça. Il n'est pas moins Dieu dans certaines circonstances. Si Dieu était moins présent, on ferait comme, oh, mais il n'est plus omniprésent. Il n'est pas là. Oh, mais là, on vient de perdre un attribut de Dieu puis ça ne fonctionne plus, là. Il est Dieu parce qu'il est omniprésent. Et parce qu'il est omniprésent, il est Dieu. Ça va bien, hein? Vous suivez ce matin? Oui. On peut reculer. J'ai une manette en quelque part, là. Et le passage qui nous parle, lorsqu'Isaïe a expérimenté la présence de Dieu, ça l'a amené, il a été transformé par ce moment-là. Ça, c'est la présence de Dieu dans ta vie te transforme. Ma question, c'est, as-tu expérimenté la présence de Dieu dernièrement dans ta vie? Sinon, quand? Quand j'ai un down, ou que je fais le moins, savez-vous ce qui se passe? Je me mets à ne plus penser correctement. Je me mets à ne plus penser de la bonne façon. Ça apporte souvent une démoralisation, et si c'est pas repris tout de suite, ça amène un découragement, un désespoir. Et ça, c'est souvent ça qui arrive à tous les êtres humains. C'est qu'on vit des circonstances, on vit des événements, et on sent moins la présence de Dieu. Et si on ne reprend pas tout de suite ça, de dire « faut que je retourne à Dieu », il y a comme un glissement qui se fait. On glisse vers « oh, tout à coup, il y a un découragement, on se démoralise, oh, ça donne rien, tu vois que ça n'a pas de rien. » Regarde, c'est parce que là, tu es en train de regarder à toi. Tu n'es plus en train de regarder à Dieu. Tu n'es plus en train de regarder à lui. Tu n'es plus en train de focusser tes yeux sur lui. Tu es en train de focusser tes yeux sur ce qui se passe, sur ce que tu vois de tes yeux et non pas ce que Dieu a dit. Fais ça, je t'ai demandé de le faire. Mais que je change d'idée, je vais te le dire. Et souvent, on remet en question les appels de Dieu ou ce que Dieu nous demande de faire parce qu'on ne voit pas ce qu'on pense qui devrait sortir de ça. Oui, mais Seigneur, je donne ma vie, je fais ça pour toi, puis je fais ça pour toi, puis il ne se passe rien. Oui, continue. Là, tu te dis, moi, il n'y a pas eu de bon mémo. Pas reçu le bon message. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, en fait, ce que j'attendais, c'est que tu me dises, ben oui, arrête, là, ça donne rien. C'est ça qu'on aimerait entendre. Et Dieu dit, non, continue, persévère. Lâche pas, abandonne pas. Fie-toi sur moi, regarde, mets tes yeux sur moi, pas sur ce qui t'arrive. Ouais, mais ça donne rien. C'est parce que t'es en train de regarder aux résultats humains et physiques. T'es pas en train de regarder à l'impact spirituel que Dieu a en ce moment. Et que tu ne sais jamais, jamais ce que Dieu va faire. Parce qu'on ne connaît pas le spirituel. On connaît pas les cœurs des gens. On pense des fois qu'il n'y a pas d'impact. Combien de fois dans une... Et là j'enlève l'aspect spirituel, je parle dans la vie. Tu sais, mettons, vous avez coaché quelqu'un, vous lui avez montré quelque chose, vos ados, tu sais, vous, combien de fois c'est démoralisant, c'est décourageant. Il me semble que j'ai essayé fort à bord de ça, ça donne rien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça donne rien. Vous en êtes la preuve. C'est pas vrai que ça donne rien. Ça, c'est les... Si on s'arrêtait qu'aux résultats humains, on abandonnerait sur trop de gens dans la vie. On laisserait tomber des personnes qui sont sur le bord, puis on sait jamais, vous êtes peut-être juste sur le bord d'un percé. Puis ça a marché. Et on abandonne parce qu'on voit pas de résultat. Puis Dieu dit, moi, je t'ai pas changé d'idée. Je t'ai dit, vas-y, avance. Ouais, mais Seigneur, Jésus a même envoyé ses disciples, Jean et Jacques, entre autres, dans une ville, ils sont revenus, mais ils ont dit, ils veulent rien savoir. Pourquoi on en... Et ils ont dit, littéralement, pourquoi on fait pas tomber le feu du ciel sur cette ville-là? Ils n'existeront plus. Pensez que vous êtes radical? Il y en a d'autres. C'est vrai. Hey, on les fait brûler. Fini, on n'entend plus parler d'eux autres. Ils veulent rien savoir anyway. Jésus dit, non, faites pas ça. Jésus savait, est patient. Dieu est patient. Et nous, on a nos regards sur le humain, sur le terrestre, et on perd de vue ce que Dieu est en train de faire. Quand je cherche à vivre un moment dans la présence de Dieu, c'est vous ce qui se passe. Tout change en moi. Je reprends vie. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque respire, je ressens plus Dieu. Et c'est quand je délibérément, je prends ça, il se met à me renouveler mes forces. Il me remplit, il me redonne ces forces-là. La présence de Dieu m'a amené à des endroits plus profonds de vraie soumission dans ma vie. C'est lorsque je commence à laisser Dieu agir et de pas faire comme, mais Jean-Marie, ça ne tente pas. Il n'a pas vraiment envie de le faire. Mais de dire, OK, tu m'as pas dit de pas le faire, je vais le faire. Je vais continuer jusqu'à ce que tu me dises non, je vais le faire. Ça veut dire que tu n'as pas changé d'idée. Je vais le faire. Et je vais continuer, et je vais continuer. Et donne-moi la force. Mais sa présence commence, m'emmène à des endroits de soumission dans ma vie où je commence à réaliser, mais ah, j'ai tellement besoin que Dieu change ça dans mon cœur. J'ai tellement besoin que Dieu vienne transformer ça dans ma vie. J'ai besoin de la présence de Dieu, de sa puissance pour venir transformer mon cœur. Peut-être que c'est jamais arrivé dans ta vie. Mais Dieu peut et veut se révéler à toi comme ça. Dieu veut le faire. Il peut le faire. La Bible a dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Peut-être que ça fait un moment que tu as cherché à t'approcher de Dieu parce que tu veux expérimenter sa présence. Dis-toi une chose, je te le dis, tu vas être transformé. Tu vas être transformé. Donc, première chose qu'il faut pour s'abandonner complètement entre les mains de Dieu, il faut vivre une expérience, une véritable expérience de la présence de Dieu. Deuxième chose qu'il faut, c'est une véritable prise de conscience de ta nature pécheresse. Ça, c'est un des plus grands mensonges culturels de notre époque. Je suis une bonne personne. C'est un mensonge culturel qui est phénoménal. De dire, non, mais je suis une bonne personne, dans le fond, moi, je suis correct, je suis une bonne personne. La Bible est claire, sans Jésus-Christ, il est impossible d'être une bonne personne. C'est lui qui nous rend bons. Et il faut comprendre qu'au départ, en fait, souvent les gens disent, oh, mais l'homme devient mauvais à cause de ce qui lui arrive. Non. Il naît avec une nature comme ça. C'est ancré en lui. C'est pas quelque chose qui est appris, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'il naît avec. C'est ça la transmission de Adam et Ève aux êtres humains. Le merveilleux héritage qu'ils nous ont laissé, c'est le péché. C'est le péché qui demeure en nous, qui est là. La preuve, prenez un enfant. Vous avez un petit bébé, là? Dès qu'il va commencer à parler, il va mentir. C'est vrai. Il va, en fait, il a même pas parlé qu'il vous manipule. C'est vrai. C'est comme ça. C'est dans la nature humaine. C'est pas quelque chose qu'on y apprend. C'est quelque chose qui est inné. Et tant qu'il n'y a pas une véritable prise de conscience de ça, de réaliser, mais c'est vrai qu'on est comme ça, il peut pas se passer rien. Puis c'est à la lumière de qui Dieu est qu'Isaïe réalise cet état-là dans sa vie. En fait, si je le résume, c'est on est des méchants, horribles et pathétiques pécheurs par nature. Bienvenue à Source de vie. Tu sais, pour vous faire sentir mieux. Si pour vous faire sentir bien, moi. En fait, le problème qui arrive dans la vie, c'est quand tu compares une ligne croche avec une ligne croche, ça a l'air pas pire. C'est quand tu compares une ligne croche avec une ligne droite que tu fais « Oh, OK, non, ça marche plus, là. » C'est là que tu fais « Oh là là. » C'est ça qui se passe. Et voici ce qui se passe dans Isaïe 6, verset 5. Il dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Isaïe est en train de dire, il réalise, et moi, là, oublie ça. Je suis fini. Je suis un fini, moi. Regarde, je suis perdu. J'ai vu Dieu, sa présence. Je peux pas tenir en sa présence. Je ne peux pas, je suis un pécheur. Ça prend quoi pour arriver à cet abandon-là complet? Ça prend cette prise de conscience véritable de notre nature pécheresse. Mais vous allez voir qu'on va aller plus loin, parce qu'il y a la troisième prise de conscience, là, vous pas de prise de conscience, mais la troisième chose, c'est une véritable compréhension de la grâce de Dieu. En fait, la grâce de Dieu est inutile sans réaliser notre état pécheur. En fait, l'amour de Dieu, elle est vaine sans réaliser sa colère et son jugement. C'est là que tu comprends pourquoi il est comme ça. De sachant que tu as, par notre nature, et ça, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est qui on est. On n'est pas des pécheurs parce qu'on pêche, on pêche parce qu'on est des pécheurs. Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre, il y a une nuance entre les deux. C'est pas parce que je fais des mauvaises choses que je deviens pécheur. J'agis mal parce que je le suis déjà. C'est déjà en moi. Mon cœur est mauvais. Fait que cette notion-là dit, moi, je suis une bonne personne. Non! La Bible dit, nul n'est bon, nul ne cherche Dieu. Il n'y a personne qui se tourne vers Dieu. C'est pas dans la nature humaine. C'est quand Dieu se tourne vers nous. C'est Dieu qui fait l'appel. C'est Dieu qui fait ça. Et qui change nos cœurs. Parce que à la base, on veut rien savoir. Ça ne nous intéresse pas. Suivre un Dieu qui va me dire quoi faire de ma vie? Non, jamais. Pas lui qui va mener ma vie. Je suis le capitaine de mon âme, le capitaine de mon bateau. Je suis le maître de ma destinée. C'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est juste que tu réalises pas qu'il y a un maître un petit peu plus haut que toi, qui est plus maître encore. Moi, je suis plus maître 67. Lui, il est plus grand maître. Moi, petit un peu. Un petit peu plus petit. Mais quand tu comprends sa grâce, c'est là que ça t'amène véritablement un point d'abandon avec Dieu. Isaïe 6, le verset 6 et 7 dit ceci. Alors, l'un des séraphins, un ange qui était là, vola vers moi et il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, regardez ça, c'est Amazing Grace, ceci. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Hey, pensez, ta faute est enlevée. Ton péché est expié. T'es maintenant plus un pécheur. T'es plus dans cet état-là. T'as été racheté. Ça, c'est une grâce infinie avec une touche, juste avec la touche de miséricorde, t'es pardonné. Peux-tu imaginer ça? Tes rages de colère, pardonné. Tes pensées de convoitise, pardonné. Ton égoïsme, pardonné. Tous les mensonges et les secrets que t'as jamais racontés, pardonné. Dieu te traite comme si ça n'était jamais arrivé. Wow! Dieu te traite comme si ça n'était jamais arrivé. Ça s'est jamais produit. Il choisit de te traiter de cette façon comme t'as jamais enfreint la loi. T'as jamais été pécheur. Il choisit de te voir à travers sa grâce de cette façon-là. C'est une décision qu'il a pris de nous aimer malgré nos manquements, malgré nos erreurs. Et c'est là la compréhension de la grâce de Dieu. Quand tu réalises que la grâce de Dieu a pour toi, à la lumière de tes péchés, cette grâce-là apporte une transformation, ça change tout. Quand tu réalises l'état que tu es, c'est ça de prise de conscience de ta nature pécheresse, de réaliser ce que la grâce vient faire. Et c'est là que tu fais, my God, grâce infinie. C'est fou cette grâce-là. Qui a pris un homme comme moi. Et vous avez déjà entendu la chanson Amazing Grace. J'avais déjà entendu cette chanson-là. Elle a été écrite par un homme qui s'appelle John Newton. John Newton, c'est vieux, là, OK? C'est, il n'a pas écrit ça en 92, là. En tout cas, pas 1992. John Newton a écrit ce chant-là. Et ce qui est fascinant, c'est que John Newton était un marchand d'esclaves. C'était ça dans sa vie qu'il faisait. Il vendait des esclaves. C'est la traite des esclaves qu'il faisait. Il était riche de ça. Il faisait une belle carrière là-dedans. Et c'est pour ça qu'un jour qu'il a rencontré la grâce de Dieu, il va écrire ce chant-là, « Grâce infinie, qui a pris un pourri comme moi. » C'est vraiment ça. « Wretch », c'est un pourri. Un dépravé comme moi. Un irrécupérable. « Grâce infinie, qui a pris un gars comme moi. » qui m'a changé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je ne savais pas, je ne réalisais pas. Grâce infinie que Dieu a manifestée envers moi. En fait, cette grâce-là a pris toute sa dimension à la mesure où il a réalisé sa condition à lui. De réaliser, mais as-tu vu quel genre de personne que je suis? Dieu a décidé de m'aimer, de me faire grâce. C'est impensable. Amazing Grace, c'est même juste comme, mais voyons, ça n'a pas de sens, ça. C'est même pas mesurable. C'est comment qu'il peut m'aimer? Me connaissant, et quand tu réalises cet état-là dans ta vie, d'état pécheur, et que tu comprends cette grâce-là qui vient par-dessus, tu fais, mais ça n'a juste pas de sens. Et là, nous, on compare nos choses dans nos vies. Oui, c'est vrai, je suis pas une super bonne personne. Mais la grâce de Dieu passe par-dessus tout. Tout crime que vous pouvez imaginer aussi horrible. Et c'est ça que quand tu prends ta conscience, t'es pas meilleur parce que t'as pas fait des crimes comme ça. Ça, c'est la nature humaine qui se voit de même. Elle se compare. Quand je me compare, je me console. C'est ça qu'on fait pour se consoler. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. On regarde les autres, quand on se regarde, on dit, ça n'a pas bon sens, puis on regarde les autres, finalement, je suis pas si pire que ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas la bonne référence, tu regardes. C'est Jésus la référence. Tu vas te rendre compte qu'il y a personne. Et c'est, vous savez, le mot péché, ce qu'il veut dire, le mot péché en grec, c'est le mot amartia. Amartia veut dire manquer la cible. Ça veut dire arriver short. Ça veut dire il en manque un bout. Tu y arrives pas. Tu ne peux pas y arriver. Donc, quand la Bible dit qu'on est un état pécheur, c'est, ben, de nature, il te manque un morceau et tu peux pas y arriver. Tu ne peux pas atteindre la cible. Tu te sais, mais hop, t'as visé à côté. Je vais l'avoir, tu l'auras jamais. Il te manque un morceau.
Amartia veut dire manquer la cible. Et le mot péché, c'est ça, c'est manquer la cible. T'as manqué la cible, t'as menti. T'as manqué la cible. La cible, c'était de pas mentir. T'as franchi la limite de vitesse? La cible, c'était de pas la franchir. Manque un bout. T'as manqué la cible. C'est la loi, c'était d'aimer les autres et de pas juger. Je suis pas arrivé. T'as manqué la cible. La cible, c'était de pas convoiter les affaires des autres. J'ai manqué la cible. C'est ça, le péché. C'est ce qu'il fait en nous. C'est comme ça qu'on est. Et quand on accepte cette prise de conscience-là, on peut comprendre pleinement la grâce de Dieu. Et c'est là que la grâce amène à un autre abandon, à réaliser, dire, OK, mais là, c'est incroyable ce que Dieu fait, là. C'est fou ce qu'il est pour moi, là. Et quand tu réalises cette grâce-là pour toi, à la lumière de ton état, cette grâce apporte une transformation, ça change tout. Ça change tout. Tout, ça change. Comme dirait Rogatien, ça change tout. Quand on reconnaît que je peux rien faire et que je peux rien apporter, et c'est Jésus qui apporte tout. C'est lui qui l'apporte. Quand on passe par ces trois étapes-là, on expérimente la grâce inégalée et non méritée de Dieu par Jésus-Christ. Et le « envoie-moi », c'est plus ma vie, mes désirs, Seigneur, envoie-moi. Une des prières les plus audacieuses que tu peux faire à Dieu, c'est « je suis à toi ». Je suis tout à toi. Je t'appartiens. Et là, on arrive à Isaïe 6:8 qui dit « j'entendis la voix du Seigneur disant « qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « me voici, envoie-moi ». Après avoir, Seigneur, réalisé de vivre ta présence, de constater mon état et de connaître ta grâce de ce que tu as fait pour moi, « me voici, envoie-moi, Seigneur, prends-moi ». Oui, mais tu sais même pas où je t'envoie, prends-moi. Prends-moi. C'est pas ce genre de « oh non, il faut que je prie cette prière-là parce que Jésus est mort pour moins péché. Oh non, il faut que je prie pour ça. » C'est pas ce genre-là. C'est plutôt « hey, j'ai l'opportunité de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. » David Livingstone a dit, si une mission pour un roi terrestre est considérée comme un honneur, comment une mission par un roi céleste peut-elle être considérée comme un sacrifice? Pensez un instant. Un roi terrestre, oh oui, je vais y aller pour le roi. Et le Seigneur t'envoie dire, oh oui, ça va être un sacrifice. Ça va être difficile. C'est pas, oh non, il faut que je m'implique encore. Oh non, il y a encore à me demander pour faire de quoi eux autres. Faut que je serve. C'est « wow, j'ai l'opportunité de servir, j'ai l'opportunité de donner, j'ai l'opportunité de participer, de faire de quoi pour ce Dieu extraordinaire-là? » Quelqu'un devrait s'exciter, cette-là. C'est pas une décision d'un instant, d'un moment, de dire « ah ouais, en 2002, je me suis converti, j'ai eu la présence de Dieu, toute bénédiction. » C'est une décision quotidienne. C'est quelque chose de récurrent. C'est parce que tu vis une transformation de jour en jour que cette décision-là doit être reprise de jour en jour. S'abandonner à Dieu, c'est une décision quotidienne de dire, Seigneur, c'est à toi cette journée-là, de dire à Dieu, me voici, envoie-moi encore aujourd'hui. Mais je sais même pas où est-ce que je vais atterrir, mais envoie-moi. Je vous ai souvent mentionné cette phrase-là, puis je pense que je vais aller pour ma vie. Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges périt. Si tu nourris tes désirs, tes ambitions, ta nature pécheresse, tes projets, tes désirs, elle va grandir. Elle va prendre de plus en plus de place. Et là, ça va être, et cette nature-là va toujours faire, donne-moi. Moi. C'est le moi, ma vie est trop importante. Moi, j'ai mon temps, je suis trop occupé, je peux pas faire une différence. Un autre peut le faire. Moi, j'aime ça, Jésus, j'aime le ciel, je m'en vais là, mon salut est tout là, mais moi, j'ai pas le temps. Mais si on néglige cette nature humaine de pécheur, on se met à nourrir la présence de Dieu dans notre vie. Je nourris mon esprit par sa parole, par sa présence, par la prière, par la louange, et je me mets à grandir spirituellement. Et tu connectes avec d'autres chrétiens, et ça te permet de grandir et d'encourager. Je suis dans l'Église et je suis l'Église. Ça, c'est bon. Et l'Église est l'espoir du monde, donc je porte cet espoir-là en moi. Seigneur, je suis disponible pour toi. intentionnel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui veulent prier cette prière audacieuse-là? J'ai une théorie là-dessus. Je peux pas la prouver. T'es pas scientifique. Mais juste en parlant avec les gens, en jasant avec le monde, je pense que beaucoup de gens ont peur que Dieu va vous faire tout vendre pour devenir missionnaire en Afrique. Puis jamais utiliser de véritables toilettes pour le restant de vos jours. Non, mais il y a comme cette notion-là de comme, il va se passer ça, Dieu va tout changer, je pourrais plus aller. Oh. Je veux juste, ceci, ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que oui, ça peut arriver. Il peut vous appeler à être missionnaire en Afrique. C'est juste comprenez. Mais, il est beaucoup plus probable qu'il vous appelle à être missionnaire là où tu travailles. Il est beaucoup plus probable qu'il vous appelle à servir les gens qui sont devant toi. À être fidèle sur ce qu'il t'a déjà donné. Sur ce qu'il t'a déjà confié dans ta vie. À être fidèle à faire ce qu'il t'a déjà demandé. Combien de fois j'ai entendu, puis ça me fait te croche, là. Beaucoup de fois, j'ai des gens qui me disent, « Oh, Dieu va m'appeler à ça, bla 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 bla, big, bla 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 bla. » Dieu t'a appelé à arrêter puis d'écouter quelqu'un qui souffre. Dieu, souvent, va t'appeler simplement à tendre la main, à donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin. Dieu, ça se peut qu'il t'appelle cette semaine à acheter un repas à 15$ pour une mère célibataire avec 4 enfants, là. Puis toi, tu vas dire, c'est pas si gros que ça. Deux minutes. Elle a une autre opinion. Elle va probablement avoir une autre opinion. Elle va probablement dire, c'était vraiment une grande chose que t'as faite. Et Dieu dirait, c'est une grande chose parce que t'as été fidèle dans des petites choses. Quand tu fais beaucoup de petites choses puis que t'es fidèle, tu vas te réveiller un jour et réaliser que toutes ces petites choses-là étaient réellement des grandes choses. Parce que t'as été fidèle jour après jour, après jour, après jour. T'as été fidèle dans les petites choses et Dieu va te faire confiance avec de plus grandes. Dans notre tête, on veut toujours des affaires grandes. On veut toujours Dieu. Oh, moi, je voudrais faire ça. Moi, je voudrais faire. Mais si je fais ça, faudrait que Dieu pourvoie pour ça. Faudrait que Dieu arrange ça. Faudrait que Dieu fasse ça. Toujours Dieu qui fait quelque chose. Dieu a sauvé ta vie. Dieu t'a donné sa grâce. Et là, on s'assied et on dit, ben, mais que tu me fournisses d'autres choses, va y aller. Non. Et c'est pour ça que peut-être plusieurs, vous n'avez pas de réponse à vos prières. Vous attendez que Dieu fasse quelque chose. En fait, j'ai une petite nouvelle pour vous. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Bouge. La foi, c'est ça. C'est de mettre le pas avant de voir l'escalier. C'est de dire, je ne sais pas. Je sais pas où est-ce que ça va retomber. Je sais même pas où je m'en vais. En fait, c'est hallucinant quand tu dis ça à quelqu'un. Hey, tu t'en vas dans quelle direction? Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais je sais que Dieu m'a envoyé par là. T'es sûr? Non. Mais j'y vais. J'y vais parce que je peux juste aller par en avant. Vous savez, dans la vie, vous pouvez pas reculer. La vie, là, vous pouvez juste aller par en avant. Il y a pas dans l'arrière. L'arrière, c'est hier, puis il y a pas de return. Back to the Future, c'est des films, ça. J'ai invité Oli à venir terminer. Je vais terminer avec une histoire ce matin. Un jour, il y avait un pasteur qui se tenait à la porte en arrière de l'église. Et maintenant, il y a un gars qui passe, qui dit, « Ah, oh, bon message, pasteur, très bon. » Puis il était très ému, puis il dit au pasteur, il dit, « Pasteur, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez savoir, c'est que ma vie a été transformée. Et la réponse est oui. Maintenant, quelle est la question? » Le pasteur, il est comme, « Merci, Dieu te bénisse, bonne semaine. » Il est pas sûr. Et là, il se dit, c'est un peu étrange ce qui vient de se passer, c'est bizarre. La semaine suivante, le pasteur est encore à la porte. Et puis là, le gars, il revient, puis il dit, « Pasteur, oh mon Dieu, le Dieu est tellement bon, Dieu est tellement si bon et incroyable. La réponse, c'est oui, pasteur, c'est quoi la question? » Le pasteur il est comme, je sais pas, je vais te revenir là-dessus, je vais penser à ça cette semaine. La troisième semaine arrive. Le gars arrive tout émotif. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que je suis ici et que Dieu me permet d'être là. Pasteur, la réponse est oui. Maintenant, quelle est la question? La ligne était longue de gens. Le pasteur, il dit, écoute, on va prendre un café cette semaine. On va jaser, puis je vais essayer de répondre à cette histoire-là de questions, de réponses, oui. Le gars est devenu très émotif. Ils sont rendus dans la semaine aller prendre le café. Et alors qu'ils sont commencé la discussion, le gars devient très ému, très tout à l'envers. Puis il dit, pasteur, vous devez comprendre ce que ma vie était vraiment. Vraiment, vraiment toute croche. Puis là, il a commencé à donner une liste de tout ce qui était accro, puis dépendant, puis qui négligeait sa femme, puis ses enfants. Puis il dit, je suis venu à l'église une semaine, puis ils avaient prêché ce message-là. Et quand vous l'avez fait, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux. Comme j'avais réalisé. Et j'ai vu ça, puis j'ai invité Jésus dans ma vie. J'ai demandé à Dieu, je veux Jésus dans ma vie, moi aussi. Viens vivre en moi. Et il dit, maintenant, je suis une nouvelle personne. Je suis transformé, je suis tout différent, différent, différent. Il dit, il n'y a rien de pareil. Il dit, demande à ma femme, demande à mes enfants, demande aux gens autour de moi. Ils vont vous dire, tout le monde, que je suis une personne différente à cause de Jésus. Puis il dit au pasteur, ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est ceci. La réponse est oui. Tout ce que vous avez besoin, à 2h du matin, tondre le gazon, m'occuper des toilettes, aller visiter quelqu'un, prier pour quelqu'un, donner pour quelque chose, être présent pour tel événement. Je suis all in. Ma réponse est oui. Maintenant, quelle est la question? En fait, c'est je suis complètement disponible, n'importe où, n'importe quand. Seigneur, je suis à ton service. Comment passerez-vous de l'endroit où tu as le courage de prier cette prière audacieuse-là? En fait, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas besoin de connaître tous les détails. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que tu m'appelles. Et si tu m'appelles, la réponse est oui. Comment on en arrive là? Vous expérimentez vraiment la présence de Dieu. Vous faites une réelle prise de conscience de votre nature pécheresse. Et vous comprenez vraiment la grâce et le pardon de notre Sauveur Jésus. Et quand ça arrive, vous essayez pas simplement de donner comme toute juste une partie de votre vie, mais toute votre vie, tu veux tout lui donner. Puis il y a peut-être des gens qui aujourd'hui vont se dire, ben moi je suis à l'étape où Dieu je suis là, mais moi j'y vais pas. D'autres sont, Seigneur, me voici, mais envoie quelqu'un d'autre. Mais vous allez être différent quand vous allez prier, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Quand vous faites, vous pouvez pas vous empêcher de dire ça. Seigneur, me voici, envoie-moi. Quand tu as réalisé cette grâce-là par rapport à qui tu es, quand tu as vécu sa présence, tu peux pas sortir de là comme la même personne que tu étais. C'est impossible. Et c'est là que tu dis, Seigneur, la réponse est oui. Je sais pas c'est où, je sais pas c'est quoi, mais oui. Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet au www.ccsdv.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.